Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les matchs là l'année dernière, où il y a deux ans, on y allait toujours un peu en demi-molle.
Ce manque d'insuffisance qu'on a eu en supériorité numérique.
Ça va être vite fait, les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Voilà. Maintenant, next.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot Nicolas Villas.
21h, vous êtes dans l'after avec Thibault Leplat, avec Walid Acherchour. Dans quelques instants, on va faire une grande page Manchester United avec Julien Laurence, l'avenir de Cristiano Ronaldo, l'avenir de Manchester également. Il en sera question également dans la deuxième partie de l'after, hein, avec Gilbert Bribois et Daniel Riolo notamment, et Kevin Diaz également qui sera là. Il y a notamment une rumeur de potentiel racheteur du côté de Manchester United, et c'est un certain Radcliffe, hein, qui est le proprio de Nice avec Ineos. Et on fera une grosse page Nice également dans quelques instants.
Times
avec Maxime Tilliette. Mais avant cela, on va parler de l'OM. Supporter de l'OM, on vous attend au 32-16. Petite info qui est tombée aujourd'hui. Brambilla, l'entraîneur des gardiens à l'OM, qui cède sa place à John Pasqua, qui faisait déjà partie du staff de Sampaoli. C'est déjà le deuxième changement, hein, dans le staff de Tudor en un mois. Le mois dernier, Mauro Camoranesi avait quitté son poste d'adjoint après une semaine seulement aux côtés du Croate. Avis tranché de Walid Acherchour.
Donc c'est pas un dog.
Je vais me faire gifler de mots là, c'est incroyable.
Il est là le duo, on l'a recomposé, magnifique. Paul Vecchio, il est trop fort. Walid, ton avis qui est sous forme de réflexion finalement, parce que nous sommes des gens qui...
C'est à la mode maintenant.
Bien évidemment. Le jeu de chaises musicales à l'OM, est-ce viable au long terme? Non, on peut pas avoir d'avis tranché quand on n'allume pas son micro.
On peut pas avoir d'avis tranché tous les soirs, Nico.
C'est vrai.
Donc l'idée, c'est de...
Oh, j'en connais ici qui sont capables. Hein.
Ouais.
Ils sont pas là ce soir.
Faut être fort quand même, faut être costaud.
Faut être fort, ouais.
Faut tenir tout l'été, un avis tranché.
Faut être fort.
Non, je voulais parler de la situation de l'Olympique de Marseille et où allait le club plus globalement. Parce que j'ai lu l'article dans l'équipe aujourd'hui qui parlait un peu du grand manège et du grand ménage qui s'est opéré côté Olympique de Marseille cette saison. Et j'ai réfléchi un peu tout l'après-midi sur en fait où allait l'Olympique de Marseille, d'où revient l'Olympique de Marseille, et je me pose la question, est-ce que aujourd'hui cette politique qui est aussi de fait, hein, par rapport au manque de moyens du club, notamment du manque de ventes, du modèle, parce que Longoria est aussi tributaire de ça depuis un moment. Est-ce que ce jeu de chaises musicales perpétuelles année après année peut être viable, et jusqu'à quand en fait l'Olympique de Marseille va être obligé de faire ça tous les ans? Je reprends quelques exemples, mais trois coachs en trois ans, donc Villas-Boas,
Sampaoli et
Tudor. On peut même rajouter Nasser Larguet, même si c'était un intérim.
Avec des départs souvent compliqués, on va dire, oui. Hein, des séparations douloureuses.
On se rappelle de Villas-Boas avec l'arrivée de Ncham qui est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase entre Longoria et à l'époque directeur sportif et Villas-Boas. Ce qui se passe en amont...
C'est plus avec Héro, hein, d'ailleurs.
Oui, avec Héro aussi, mais il y a eu un peu le Ncham, il n'en voulait pas, etc. Ouais. On lui a mis Ncham à ce moment-là, même si déjà le torchon brûlait, tu as raison là-dessus. Ce qui s'est passé avec Sampaoli cette saison, où dans l'article c'est stipulé que Longoria veut, et avec Ribalta notamment, ils veulent un modèle un peu italien, avec cette idée de l'entraîneur qui entraîne et qui n'a pas à s'immiscer un petit peu dans le recrutement ou dans les choix sportifs. Et là maintenant arrive Tudor, donc sur les trois coachs, Tudor qui sur les neuf dernières fois où il a pris des clubs, parce que c'est terminé au bout d'une saison, à l'Udinese, à Galatasaray, donc pas le coach le plus stable d'Europe, des joueurs qui s'en vont, des joueurs qui arrivent, j'ai compté sur les trois dernières années, il y a une moyenne quand même de 10 recrues par an. Là, on parle de 11 recrues au final qui vont sûrement continuer d'arriver jusqu'à la fin du mercato. Donc, équipe changeante, entraîneur qui change, philosophie qui change, avec des joueurs qui arrivent. Bon, ça, encore une fois, je le répète, mais c'est parce qu'il y a un manque de moyens à l'Olympique de Marseille, mais des joueurs qui arrivent en prêt sans option d'achat. On pense à Saliba l'année dernière, on pense à Nuno Tavares qui arrive cette saison, ou des mecs qui peuvent émerger à Marseille, qui peuvent progresser à Marseille mais qui profiteront à d'autres clubs, des joueurs vieillissants qui arrivent à 32, 33 ans et qui ne peuvent pas donner la pleine mesure sur 2-3 ans. Et en fait, on a ce ce jeu de chaise musicale perpétuelle, année après année, un ascenseur dans les résultats où on peut avoir la Ligue des Champions sous Villas-Boas, et puis derrière le feu à la Canebière, et puis derrière une deuxième place avec Sampaoli.
La Commanderie.
Et derrière une deuxième place sous Sampaoli, et puis juste après cette saison où on a un été tout feu tout flamme. Donc jusqu'à quand ça va durer? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est possible de tous les ans? Parce que cette année, si ça se passe mal, bien entendu, bah, quand on voit les joueurs qui viennent d'arriver, Sanchez, tu vas pas capitaliser là-dessus pendant 3-4 ans. Payet, l'année prochaine, va falloir passer à autre chose. Nuno Tavares va sûrement repartir à Arsenal comme Saliba l'a été. Tu prends derrière Gigot, la même chose pour un Mbemba. Tu vas devoir, peut-être que Guendouzi partira. Donc, je regardais un petit peu dans l'effectif. Il y a 2 ans, l'effectif de Villas-Boas, il reste plus de joueurs. Il reste Rongier titulaire, Pape Gueye qui était un peu là sur la fin, Achaletachar, mais sinon, en fait.
Et Payet.
Mais ce club est tellement mouvant, ce club bouge tellement d'année en année, même pour les supporters, je trouve qu'il n'y a même pas moyen de pouvoir s'identifier à un coach, à des joueurs, à une équipe. Et je trouve que ce modèle-là, moi je regarde en Europe, hein, pour s'inscrire dans la durée en Europe, je vois pas, tu sais, les cycles, même le trading, hein, les cycles, c'est 2-3 ans. Tu essaies de garder la même équipe, la même ossature, le même coach. Et je voulais ramener cette réflexion un peu ce soir dans l'after en disant, ce modèle-là.
Eh bien, je vais te répondre.
Ce modèle-là, est-ce qu'il est viable? Et jusqu'à quand, en fait, l'Olympique de Marseille va être obligé de faire ce jeu de chaise musicale?
Ouais. Et supporter de l'OM, on vous attend au 32-16. On sera avec Ilias dans quelques instants. Vas-y, Thibaut.
Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Et c'est d'autant plus troublant que deux choses. D'abord, le duo Longoria-Sampaoli qui est arrivé plus ou moins en même temps aux commandes.
Un vent quand même, Longoria.
Oui, mais c'est Longoria qui va chercher, va chercher Sampaoli. C'est pas l'Héro. Il a jamais parlé une seule fois avec Héro. Sampaoli, c'est vraiment directement Longoria. Et Longoria arrive par le concours de circonstances qu'on sait en poste. Et les deux arrivent à sortir le club d'une crise très grave, hein, qui est quand même une crise. Mettre le feu à la commanderie, c'est quand même pas.
C'est pas rien.
C'est pas rien dans l'histoire d'un club. Donc ils arrivent à sauver la place européenne. Parce que je crois que l'OM était 8e ou 9e à ce moment-là. Donc ils arrivent à se qualifier pour l'Europe. Et ensuite, ils arrivent à se qualifier de la Champions League. Sampaoli disant lui-même qu'il a en fait gagné le championnat des normaux, quoi. C'est-à-dire de ceux qui sont pas le Paris Saint-Germain. Avec une équipe ou avec la moitié des joueurs qui sortaient un peu de la cave de soit d'Arsenal, soit d'autres clubs. Et donc, on avait le duo Sampaoli-Longoria qui était un élément de stabilité en fait, qui permettait de reconstruire avec un modèle de jeu, une philosophie de jeu, avec tout un truc un peu que certains qui plaisaient pas à tout le monde, mais qu'il y avait une logique, une direction, tu pouvais t'y opposer, mais au moins
une histoire.
Voilà, et puis t'étais cohérent, voilà, tu faisais pas forcément l'unanimité, mais t'avais une identité de jeu, et c'était tout le propos de Sampaoli, c'était ça, c'est de donner une identité de jeu. Et donc ces facteurs de stabilité qui étaient Longoria et Sampaoli tout à coup sautent. Sampaoli, parce que pour une histoire de recrutement et parce qu'il en a marre de pas avoir un recrutement à la hauteur de ses ambitions. Puis lui, c'est un coach un peu stature internationale, donc il a pas envie d'aller en Ligue des Champions pour être ridicule. Et deuxièmement, Longoria qui va chercher Ribalta et qui change totalement la philosophie que lui-même avait prônée 3 mois avant. Et du coup, il y a une forme d'inconstance, alors de la part de celui qui était un peu le garant en fait de la stabilité du club. Et lui-même, quand il présente un peu son travail avec son court terme, son moyen terme, son long terme, maintenir l'identité d'un club, raconter une histoire, etc. Ben ça contredit en fait tout ce qu'il a dit jusqu'à présent. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre dans ce choix de Tudor qui...
Mais c'est limite, on pourra monter même à Macourte. Hein. Souvenez-vous de son discours dès qu'il rachète l'OM.
Oui, même.
Ah, voilà, et même là, quand tu relis les déclarations, ouais,
peut-être je le voyais un peu avec les yeux de l'amour, quoi. Je me disais, bah voilà, le type, il dit des trucs sur lesquels moi je suis assez d'accord.
Mais il y croit certainement, hein,
il y croit, etc. Il communique très bien.
Mais il y croit, mais les supporters y ont cru aussi, c'est ça que
voilà,
je veux dire.
Voilà, et tu te rends compte que dans les actes, là, le type est cramé, puis il dit qu'il était crevé, il a fallu qu'il s'entoure, parce qu'il va chercher un directeur de football, et le directeur de football, il arrive du football italien, qui est, sauf le respect, mais qui est pas le football en pointe à l'heure actuelle en Europe. Mais vouloir jouer comme les Italiens, oui, dans les années 90, mais maintenant les Italiens, ils jouent plutôt comme les Espagnols, non, comme les
surtout,
Allemands.
Non, mais surtout que
c'est
les
pas l'Italie, le modèle.
C'est surtout que c'est pas le modèle foot qui parle, il parle du modèle de fonctionnement.
Sauf que le modèle Tudor, lui, se réclame du modèle italien, avec des préparations à l'italienne, avec du football de transition. Il a cité le modèle du Milan de Pioli, qui joue pas du tout comme ça, mais qui, il a cité le modèle du Milan. Et donc, tu te dis, mais en fait, qui commande, en fait? Et c'est quoi l'idée? Et quand tu vois qu'il y a des confusions dans la préparation, des confusions dans le recrutement, quand tu vois que plus personne comprend rien à ce qui se passe à Marseille, on n'est qu'à la deuxième journée de championnat, va arriver la Ligue des Champions. Moi, je suis inquiet parce que je me dis, autant t'as une stabilité, t'as un club, etc. Tu peux ne pas être ridicule en Ligue des Champions, parce qu'imaginons l'effectif de Sampaoli. Bon, bah, il arrive peut-être à faire une troisième place, peut-être un peu comme ça, un peu au forceps, il va y arriver. Mais ils vont arriver à tenir une certaine logique. Là, le type s'en va.
Non, mais même en interne, t'as
Tudor, il a aucune expérience en Ligue des Champions.
En un mois,
hein, Tudor, il a aucune expérience en Ligue des Champions.
Moi, en fait, ce qui m'est
le but du Benfica face au Dynamo Kiev en barrage aller de Ligue des
Gilbert
Champions.
Gilberto, très beau but.
Ouais, il met un bel extra.
Mais en fait,
et peut-être qu'il va y arriver. Hein,
au-delà de Sampaoli, Tudor,
vas-y,
etc.
Vas-y, apprends Ilias.
On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Moi, vraiment, l'angle, en fait, Thibaut, c'est t'as un club qui a fait deuxième du championnat.
Mais oui.
Et qui, tu parlais du staff.
Oui, mais qui a fait deuxième en étant déjà dans cette instabilité.
Déjà, c'est miracle.
T'es déjà prêté.
À Marseille, c'est chronique, j'ai envie de te dire.
Moi, sincèrement, en début de saison, l'année dernière, tu me dis le podium, mais Marseille, ils sont pas sur le podium. Donc déjà, c'était entre guillemets une surperformance en termes de résultats par rapport à d'où il revenait. Là, en fait, tu dois normalement tirer du travail de ce que tu as fourni pendant toute la saison. Tu regardes, tu lis l'article.
Table rase.
Ils ont tout changé, les mecs. Ils ont fait un reset. C'est-à-dire que non mais il y a 11 recrues qui arrivent. T'as des départs, des mecs qui jouaient l'année dernière à des postes clés. Tu prends Under, Gerson, tu les fais jouer d'une manière différente. Payet, ton capitaine, allez toi, t'es pas prêt. Et ils le disent dans l'article. Hein, et moi, je suis d'accord. De toute façon, il y avait pas besoin d'avoir des infos.
Connaît, hein,
mais quand tu vois Dieng et quand tu vois Payet sur le terrain en préparation. Je pense que c'est pas les joueurs les plus problématiques physiquement, et il y en a d'autres qui jouent depuis le début de saison et qui ont la charrette vraiment mais réelle, notamment le 9 devant polonais qui joue sans aucun problème et qui n'a pas connu le banc comme Dieng ou comme Payet. Donc le milieu de terrain qui était très conservateur avec un jeu de possession. Bref, en fait, il y a un truc, c'est fou, c'est que l'Olympique de Marseille a fait deuxième. T'as l'impression que ça n'a pas existé.
C'est une dissertation de.
Oui, mais écoute, pourquoi pas. Ben, écoute, peut-être d'autres arguments à venir avec Ilias. Salut, Ilias.
Salut.
Bienvenue dans l'After, Ilias.
Salut, Ilias.
Alors, est-ce que tu es préoccupé, toi aussi, est-ce que tu penses que c'est viable au long terme, finalement, cette instabilité perpétuelle, on a envie de dire, ou répétitive, chronique?
Ben, préoccupé, je ne saurais pas, c'est un mot assez important. En tant que Marseillais, on a l'habitude un peu de cette instabilité chronique. Je crois qu'il y a. Tous les 2-3 ans, c'est vrai qu'on n'aura jamais de Wenger dans le club, c'est sûr. Là, c'est vrai qu'il y a de réelles incompréhensions. Moi, je suis surpris par le choix de la direction, par Longoria qui choisit un entraîneur qui n'a pas forcément de renommée internationale ou ni de politique de jeu extraordinaire. On a la deuxième journée de jeu, Brest, ils n'ont pas fait sentir pour nous carrer. Il y a un changement total de politique de jeu, c'est-à-dire que les pistons l'année dernière c'était pas du tout ça, donc on s'appuie pas sur un jeu sur lequel on a réussi à construire quelque chose et à atteindre presque miraculeusement cette deuxième place.
Après les pistons, c'est peut-être le seul secteur où Sampaoli en avait demandé l'année dernière, et là ils ont été renforcés. C'est peut-être la bonne nouvelle du début du début de championnat.
Ouais, même s'il a aussi inventé des trucs l'année dernière.
Oui,
en pistons, tu mets rongé.
Parce que Lirola était préféré.
Tu préférais
faire autre chose que jouer au foot l'an dernier. Et quand tu vois Lirola qui a été acheté 12 millions l'an dernier, il est parti à Elche.
D'accord, tu prolonges à ma vie et tu le fais jamais jouer. Explique-moi aussi.
Oui, bah ça c'est parce qu'il est hors de forme.
Alvaro, pareil.
Ah ouais. Ouais, pareil.
C'est des décisions.
Mais même Camara qui part, on le savait depuis janvier dernier, il n'a pas été remplacé.
Ouais.
Rongier, il est bien gentil.
Ouais.
Rongier, il est bien gentil, alors que Camara, c'était un élément essentiel. Il y a même un problème que j'entends pas beaucoup. Mandanda qui s'en va, on prend Blanco et Lopez, mais il n'y en a pas un qui a le niveau de Mandanda, et qui a en plus la carrure et la carrière à l'OM, donc ça, c'est important. C'est un meneur d'homme un peu. Payet, pareil, on le met sur le banc. Il fait pas de bruit, dans son comportement il est nickel, comparé à d'autres joueurs un peu plus dans le nord et en particulier dans la capitale. Bamba Dieng, je crois que c'était Walid qui avait cité des arguments sur le futur de l'OM ou Alexis Sanchez. Bamba Dieng, on pourrait très bien s'appuyer sur un joueur comme ça qui aura une valeur marchande conséquente dans quelques années.
Non, pas du tout.
Non. On préfère aller chercher Alexis Sanchez à 3 millions d'euros par an alors que Bamba Dieng, il touche des clopinettes. Milik, il avance pas. Je fais le tour dans la région, j'en trouve 10 plus forts que lui.
Là, on a appris que Milik a été proposé partout en Europe. Pour l'instant,
mais
ça
l'accompagne, pas. Mon Milik.
Non, mais pour
même
l'instant,
avec
pas.
Le prix de l'essence, je l'amène, moi.
C'est bizarre. Personne ne veut de Milik. C'est bizarre.
Après, le prêt de Longoria, c'est qu'il veut vendre.
Très grand attaquant européen, c'est... il veut pas. Et personne n'en veut.
Non, mais ce qu'il lui reprochait beaucoup par Malcourt, et c'est qu'il vend pas. Et du coup, le move Dieng Alexis Sanchez, c'est ça. Ouais. C'est je te vends un joueur et en même temps, je fais signer un gros nom qui permet de se faire voir
parce que les
partenaires.
Parce que les ventes à l'OM, il va falloir en parler un jour.
Et c'est... Bah, quand tu fais le bilan de Longoria, il y a effectivement les arrivées, mais il y a aussi la colonne départ.
C'est que tu as valorisé des joueurs qui étaient en prêt.
Le problème surtout, c'est que tu vires. Le problème, c'est que tu vires.
Il part à Arsenal, il veut 30 millions.
Le problème, c'est que tu vires Zubizarreta parce que tu estimes qu'il te rapporte pas assez de millions au niveau des ventes et que finalement, alors le mercato est pas terminé.
Mais l'exemple, Saliba et Nuno Tavares. Moi, Nuno Tavares, quand il arrive, je dis, il a des défauts, il a des qualités. C'est pas le meilleur joueur du monde, mais il est fougueux, etc. Il a des défauts défensivement notamment. Mais le problème de Nuno Tavares, c'est que tu prends un mec.
Tu le valorises et puis tu vas merci, au revoir.
En fait, t'es le club satellite d'Arsenal.
C'est ça.
C'est qu'en fait, c'est. Et le mec, s'il prend
parce
de la valeur.
Si tu veux l'acheter, ça va te coûter.
Mais ça va pas te coûter parce qu'il n'y a pas d'option.
Ah oui, en plus, il n'y a pas d'option. Non, mais dans le cas de Saliba, c'était possible, 35 millions.
C'est les gars, s'il vous plaît, faites-nous comme Saliba. Ramenez-le nous, mais vraiment bien frais, bien fringant, avec une grosse progression. Et puis nous, on va en profiter l'année prochaine. Donc ça participe encore une fois au jeu de chaise musicale où malheureusement cette équipe-là, tu ne peux pas t'appuyer sur des joueurs qui vont faire 3-4 ans.
Parce que c'est la révolution permanente.
T'entends Gerson, tu dis apparemment 25 millions, il est à l'aéroport. Under, t'as soulevé son option la saison dernière. Apparemment, bon, il rentre pas trop dans les plans d'Igor Tudor. Attends, il y a des choses que je comprends pas. Il y a sur la stabilité que doit avoir ce club-là avec un coach et des joueurs, je la ressens pas moi. Et jusqu'où ça va aller? Peut-être un repreneur à un moment donné qui va ramener de l'oseille.
Ne viens pas avec ça.
Je dis pas ça. Je dis
c'est que du problème.
Non, mais c'est peut-être ça sera la solution.
Allez.
C'est-à-dire sinon ils vont tenir combien de temps comme ça?
On remercie Ilias de nous avoir appelé au 32-16. Tiens, réaction de Chris sur l'application Direct Studio. Longoria est-il un président liquide? Voilà, petite dédicace à Thibaut. c'est pas bête finalement.
Ah, t'as poursuivi ça quand même. Hein. Je me rappelle. J'étais là.
Voilà.
Tant mieux. C'était après un Lens OM 2-0.
Il y a un incroyable. La mémoire de Walid. Moi, j'ai pas.
Un lundi soir. Où ils avaient fait une très très grande performance.
Oui, ils avaient fait du football liquide.
Ouais. Je vous rappelle
Arsenal, football liquide.
Qu'après 18 minutes de jeu, le Benfica mène toujours 1-0 face au Dynamo Kiev en barrage aller de Ligue des Champions. 0-0 entre le Maccabi Haïfa et l'Étoile Rouge de Belgrade. Et tout à l'heure, il y a eu 0-0 entre Karabag et le Victoria Pilsen. Dans quelques instants, belle page Manchester United avec notre beau Julien Laurence également, supporter de United. Est-ce que vous voulez garder Cristiano Ronaldo? Ouais, parce qu'il veut partir, mais pour l'instant, il va nulle part, Cristiano Ronaldo. Et puis on reviendra sur d'autres infos, notamment Adrien Rabiot. Alors, il devait aller à Manchester. Finalement, il y va pas. Et puis, il commence à y avoir également des informations qui sortent, informations du Times. Manchester United qui pourrait changer de propriétaire, là aussi, puisque les Glazers pourraient revendre. Et l'un des noms qui circule, c'est celui de Jim Ratcliffe. Voilà, le proprio de l'OGC Nice. On va en parler dans quelques instants avec Julien Laurence. À tout de suite.
RMC, 20h minuit. L'Afterfoot, Nicolas Villas.
21h20, vous êtes dans l'after sur RMC avec Walid Acherchour, avec Thibault Leplat également. On a parlé d'OM, on a parlé de Lyon ce soir. On va parler de Manchester United. Julien Laurence est avec nous. Salut Julien.
Salut Nico.
Salut Julien. Ah, il doit avoir du boulot Julien en ce moment. Avec United. Hein.
Non mais tu sais quoi, j'ai l'impression que toutes les heures il y a un truc qui sort. Mais en plus c'est pas, tu sais, le blog qui sort l'info là, c'est le Times, il te bombarde du Bernardo Silva au PSG, Ratcliffe qui va être actionnaire de Manchester United. On va en reparler dans quelques instants. D'ailleurs il y aura une grosse page tout à l'heure également.
Le panic buy géant à 15 jours de la fin du mercato
du Jean-Félix à 130 millions d'euros.
Bon courage Julien.
Alors déjà Manchester United, vous le savez, dernier de première ligue qui recevra lundi Liverpool, ça déjà ça te met dans l'ambiance. On va débuter quand même par ce qu'est le feuilleton de l'été Julien, la série Netflix Made in England. Où va aller Cristiano Ronaldo, supporter de United? D'ailleurs, on vous pose la question, est-ce que vous voulez le garder? C'est quoi les dernières infos, Julien? Maintenant, c'est clair, United est prêt à le laisser partir, alors.
Alors officiellement, non. Officiellement, il est toujours pas à vendre. il compte toujours sur lui. Officieusement, ou en tout cas dans ce que le club peut briefer, ou ce qu'on entend, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous raconte, c'est qu'effectivement, il commence à réfléchir à l'opportunité, on va dire, on va l'appeler comme ça pour l'instant, en tout cas une opportunité de le laisser partir si un club venait chercher Cristiano. Donc ça veut dire aussi que l'annulation de son contrat et le fait qu'il pourrait lui payer la dernière année de son contrat, ça visiblement, ça a été mis de côté par le club, parce que ça représenterait quand même beaucoup d'argent. Mais en revanche, si un club comme le Napoli, comme l'Atlético de Madrid, comme le Sporting peut-être, ou je sais pas, un autre, venait pour chercher Cristiano, dans ce cas-là, aujourd'hui en tout cas, ils sont prêts à ouvrir la porte, ce qui n'était pas vraiment le cas il y a encore quelques semaines.
Alors tu l'as dit, hein, et c'est vrai qu'il y a le nom du Sporting qui est ressorti aujourd'hui. Il y a des infos qui sont sorties, The Independent, qui disait qu'en gros le Sporting pourrait être intéressé seulement si Manchester venait à libérer Cristiano Ronaldo de son contrat. Et United, ils veulent vraiment une indemnité de transfert, c'est comment ?
Non, je pense pas. Sincèrement, je pense qu'aujourd'hui ils sont obligés un petit peu d'envoyer ce message-là aux clubs qui sont intéressés, parce que tout se sait tellement rapidement que ils se ridiculiseraient encore. Je pense que si ça prenait cette tournure-là maintenant. Après, ce qu'il souhaite aujourd'hui, c'est économiser son salaire, déjà, parce qu'il a un salaire exorbitant. Et deuxièmement, surtout, c'est que l'influence qu'il a maintenant sur l'effectif, sur la politique de Ten Hag, mais sur le club en général, est plus néfaste qu'autre chose, finalement. C'est ça que le club, c'est ce qui dérange le club. Je pense que vraiment, Ten Hag, à un moment, s'est dit, bah voilà, je vais avoir un des meilleurs joueurs de l'histoire avec moi. Il jouera peut-être pas tous les matchs, ça c'est sûr. Il peut plus presser comme on l'avait vu la saison dernière, mais comme il a pu le faire à un moment, même si ça n'a jamais vraiment été
ça n'a jamais été une machine à pressing.
Exactement. mais je pense que Ten Hag, à un moment, s'est dit, il pourrait m'être utile. Simplement, le chantier est tellement gros et tellement hallucinant que si en plus tu te rajoutes le problème Cristiano, l'attitude, les mauvaises ondes qu'il envoie parfois, que ce soit à l'entraînement ou en match, on va le rappeler encore, on en a parlé dans l'émission, mais samedi après l'humiliation à Brentford, qu'il n'aille pas applaudir et saluer les supporters qui avaient fait le déplacement, qui passent devant Ten Hag sans même lui jeter un regard, le fait qu'il soit isolé de plus en plus dans ce vestiaire, même avec les Portugais, même avec les Bruno Fernandes, qui a jamais non plus été un très grand fan, c'est Diogo Dalot vraiment qui est son dernier soutien finalement dans ce vestiaire-là. C'est vrai que ça commence à être très compliqué pour lui aussi.
Alors hier soir, il a réagi, hein, Cristiano Ronaldo, sur Insta d'ailleurs. C'est assez curieux, là, ça fait deux mois, il fait que... Alors c'est même pas, il publie des posts, c'est il répond à des posts sur Instagram. Hein. C'est devenu son mode de communication là depuis quelques semaines. Vous connaîtrez la vérité quand je donnerai une interview dans quelques semaines, a-t-il écrit. Les médias ne font que mentir, je tiens des notes. Et sur les derniers mois, sur 100 infos publiées, seules 5 sont bonnes. Alors il y a eu beaucoup de réactions à ça, Julien. Il y a notamment Gary Neville qui l'a interpellé lui sur Twitter.
Ouais. Ouais. Et il a raison.
Ouais,
et
je suis assez d'accord avec Neville aussi. Ouais. Ouais.
Pourquoi dans quelques semaines? C'est maintenant. Alors, ouais. soit tu sors maintenant et tu t'imposes comme un leader, en fait, ce que tu devrais être, ce que tu es, mais ce que tu devrais être encore plus. Et donc, publiquement, pour une télé anglaise, un journal anglais, tu choisis ce que tu veux. Et tu fais passer le message, ton message à toi, le message du club, ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Mais tu te mets en avant, tu prends tes responsabilités et puis t'assumes ce début de saison raté, t'assumes le fait que tu veuilles partir ou alors peut-être que tu pourrais dire, finalement, je veux rester, je veux aider ce club. Je sais pas, n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu vas attendre 2-3 semaines? Qu'est-ce que tu vas attendre de quitter le club?
Bah, Julien, apparemment, il a dit que tout le monde racontait n'importe quoi et qu'il allait s'exprimer en temps et en heure et expliquer toute la vérité. Donc on va attendre apparemment. Ouais,
pourquoi attendre ?
Bah, j'aime bien, c'est le petit carnet de notes. Moi, j'aime bien. Ouais. J'imagine Cristiano ouais. en train de noter ouais. sur son Excel.
Le petit carnet de notes.
Il a dit ça, quel menteur.
Exactement. Apparemment, il va rétablir toute la vérité. Donc.
Non, mais n'oublions pas surtout qu'il a longtemps eu ses anciens partenaires à United, donc les Gary Neville, les Rio Ferdinand, les Paul Scholes, qui sont des gens aujourd'hui très influents dans le football anglais, dans leur job de consultant.
Pas une critique depuis un mois et demi à son égard. Rien.
Maintenant ça commence.
C'est bon.
C'est pour ça que ça, le vent tourne aussi à ce niveau-là. Et c'est vrai que. On a même vu Wayne Rooney, hein, qui dit que bah, finalement ce serait mieux pour tout le monde qu'il s'en aille. Et je pense que Wayne a raison. Et c'est vrai que ça, là aussi ça commence à changer. Et sincèrement, quand je vois pas en fait ce que tu pourrais tirer de positif au fait que Cristiano reste cette saison. Je pense que lui serait pas heureux. Je pense que Ten Hag a besoin de d'autres profils et d'autres joueurs. Et je pense qu'il serait plus un boulet, c'est triste à dire, mais on en a déjà parlé plusieurs fois avec Walid l'autre jour. On disait que pour une fin de carrière d'un des plus grands joueurs de l'histoire, On en est arrivé à un niveau de ridicule qui est hallucinant, quoi. Il devrait profiter ces dernières saisons-là. Il lui reste plus beaucoup de temps. Et au final, voilà, on est en train de parler de lui dans ces termes-là. Moi, je trouve ça incroyable.
On va se faire une petite pause. On va continuer sur Manchester United dans quelques instants avec toi, Julien Laurence, avec Walid Acharchour, avec Thibault Leplat également, supporter de United. On vous attend au 32-16. On va faire le point sur le dossier Rabiot, notamment. Et puis, on va parler également d'autres petites infos qui concernent Manchester United. Alors, des petites et des grosses également, puisqu'il y a des rumeurs, notamment de rachats potentiels concernant Manchester United. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Nicolas Villas.
21h28, vous êtes sur RMC avec Thibault Leplat, avec Walid Acharchour et avec Julien Laurence. On se fait une belle page Manchester United. Je vous fais un petit teasing, hein. Tout à l'heure, Julien sera de retour avec Gilbert Bribois, Daniel Riolo et Kevin Diaz. Et il évoquera notamment le dossier de la possible revente de Manchester United. Voilà, ce sera tout à l'heure. Juste avant ça, Julien. On va faire le point sur un autre dossier. On a évoqué Cristiano Ronaldo. Alors, on vous saura très bientôt de toute façon où est-ce qu'il va atterrir, le Portugais. Autre dossier qui fait beaucoup parler à Manchester, c'est celui d'Adrien Rabiot. Alors, le milieu de terrain de français qui était tout proche de s'engager avec United. Et finalement, ça va pas se faire. Qu'est-ce qui s'est passé là, Julien ?
Ouais, ça a bloqué au niveau des négociations autour de son salaire et du contrat de son contrat à lui. Les deux clubs, eux, ont un accord maintenant depuis plusieurs jours. Mais c'est vrai que ça coince et je pense que ça coince maintenant de manière rédhibitoire. On peut pas revenir en arrière, à mon avis, à moins que chacun fasse un geste l'un envers l'autre. Mais ça me paraît compliqué. Il y avait trop d'écart entre ce que United voulait offrir à Adrien Rabiot et ce que Véronique Rabiot et Adrien voulaient pour eux. Après. Je comprends d'un côté les deux, plus ou moins, pour les auditeurs, il aurait voulu être payé autant que Bruno Fernandes qui a prolongé son contrat il y a pas très longtemps.
C'est fantastique.
Et gagné environ 250 000 euros par semaine.
C'est fantastique.
Après, pour un club qui ne joue pas la Ligue des Champions, quand toi tu es dans un club qui joue la Ligue des Champions, et que tu voulais aller dans un club, t'étais prêt à quitter la Juve, mais pour aller dans un club qui jouait la Ligue des Champions, c'est un gros objectif pour toi. Je peux comprendre la volonté de vouloir que le club compense l'absence de Ligue des Champions, par un plus gros salaire. Puisque j'imagine que c'est ça un petit peu la mécanique, du clan Rabiot. Pour United, ils ont jugé que par rapport aux autres pistes qu'ils pouvaient poursuivre si le cas Rabiot se faisait pas, que c'était trop d'argent, peut-être qu'ils auraient pu pousser un petit peu plus et qu'ils auraient pu trouver un accord, un juste milieu entre ce que l'un voulait et ce que l'autre était prêt à donner. Je sais pas. Je trouve
Mais
ça
Julien,
dommage parce que comme Ten Hag.
Toi, tu comprends ça, toi, Julien? Tu comprends qu'un mec comme Rabiot qui est en...
Non, mais il explique. Il dit,
oui, bien sûr,
il explique la logique. Je comprends, c'est intéressant ce que dit Julien.
C'est pas à comprendre. C'est pas voilà. À comprendre ou pas. C'est une compensation. Il veut pas toucher la même chose que la Juve, puisqu'il n'y a pas la Ligue des Champions dans le club où il irait.
Mais de vouloir le même salaire que Bruno Fernandes, qui a amené quand même cette équipe en Ligue des Champions et deuxième il y a deux ans, alors que Rabiot est...
Non, mais attends, moi ce que je comprends... Non, mais moi,
ce qu'il a montré...
Non, mais Walid, pour te répondre, moi...
Je trouve ça fou, moi.
Moi, ce que je trouve fou, c'est que quand tu négocies ton contrat, c'est pas tu veux t'arriver et tu dis, moi, je veux le même salaire que lui. C'est t'arrives, tu dis, je veux tant.
Non, c'est pas ça. C'est que... Oui. Non, mais ouais, ils ont pas pris l'exemple de Bruno Fernandes. C'est-à-dire que... Oui, et que ce que voulait, le package que voulait Adrien Rabiot à United, le mettait au même niveau que Bruno Fernandes. Ils ont pas dit, je voudrais le même argent que Bruno Fernandes. Okay. Ils sont arrivés où, leur contre-offre à eux, après ce que United avait proposé en premier, était à ce niveau-là. Mais à ce niveau-là, on est loin d'un David De Gea, par exemple. On est encore plus loin d'un Cristiano Ronaldo. C'est pas, il serait pas devenu non plus le joueur le mieux payé de Manchester United. Eux, en tout cas, eux ont trouvé que c'était trop, et c'est pour ça que, dans un premier temps, les négociations se sont arrêtées. Et là, encore une fois, aujourd'hui, de ce qu'on me dit, je les vois pas reprendre.
Et puis, c'est quand même un bourbier, United, en ce moment.
Donc, là, ça parle de Casemiro, maintenant.
Ouais, c'est pour ça, les profils, en plus. Mais c'est un bourbier, effectivement. Si t'es en négociation et que t'as United qui t'appelle, une manière de dire que t'hésites, c'est aussi de pousser un peu.
Pour je sais pas, mais Rabiot, il a regardé le match contre Brentford, il s'est dit, ah ouais, quand même, quoi.
Bien sûr,
c'est
bien sûr.
À un moment, je veux bien qu'il y aille pour, qu'il ait plus d'argent que ce qu'il touche.
C'est une
situation très compliquée.
Après, si Manchester United regarde les derniers matchs de Rabiot à la Juventus, ils peuvent se dire aussi, waouh, ah ouais, d'accord, quand même. Non, mais donc, à un moment donné, c'est la même chose. Et surtout, moi, ce qui me dérange dans les profils, c'est que tout à l'heure, je parlais de Panic Buy Géant, mais quand tu vois toutes les infos, là, tu passes passe de Casemiro à Milinkovic Savic.
Après, si on parle d'oseille, les gars, Casemiro, c'est clause libératoire à 1 milliard d'euros au Real Madrid, contrat jusqu'en 2025, salaire à 6 millions d'euros net.
Après, c'était du côté du Real Madrid, tu viens de prendre Tchouaméni pour 100 millions d'euros. Casemiro, s'il propose 80 à l'âge qu'il a, à un an de la fin de son contrat, il me semble.
En 2025.
Il a prolongé. Mais ça peut être aussi une grosse opportunité pour Real Madrid de sortir Casemiro, même s'il est très important au Real. Je suis pas sûr que Casemiro, tu retrouves 80 millions d'euros, ou en tout cas dans ces eaux-là, sur les prêts d'année.
Tu es obligé de vendre. À 30 ans, tu es obligé de vendre.
À 30 ans, quand tu es le Real, tu es obligé de rien du tout.
À 30 ans, 80 millions d'euros, je vends tous les jours, moi.
Ah ouais, moi, je le vends pas, moi. Casemiro, je vois pas qui le remplace aujourd'hui au Real. Je
vous ils sont pas au point encore, les mecs. D'accord, mais ils viennent d'acheter un mec quand même pour le remplacer. Mais si t'as une opportunité. Tu penses que tu leur trouves cette opportunité-là de le vendre comme ça?
Je sais pas. Pour moi, le Real, ils sont sur une autre planète. Mais
d'accord.
On va accueillir James, supporter de Manchester United, qui nous a appelé au 32-16. Salut, James, c'est ça?
Salut à tous. Ouais, c'est ça.
James, c'est quoi? C'est turc, non?
Exactement, kurde, précisément.
C'est kurde. Et ben voilà. Alors, t'es supporter de United. Qu'est-ce que t'en penses là de tout ce qui se passe là? Alors, j'allais dire depuis quelques semaines, mais j'ai envie de te dire depuis quelques saisons maintenant.
Mais bien sûr, mais c'est du n'importe quoi. Depuis dix ans, ce club est géré comme vraiment un club amateur. Vous regardez les transferts, les derniers transferts qui ont été faits, le montant qui a été dépensé. Je prends l'exemple très simple, Maguire, pour ne citer que lui. On a dépensé des millions et des millions sur des joueurs qui aujourd'hui ne seraient même pas titulaires dans le top 10 des clubs européens. Et le souci, c'est que ce club est dirigé comme des amateurs. On ne sait même pas déjà qui c'est qui dirige. Entre tous les enfants, c'est n'importe comment. On ne sait pas qui c'est qui prend les décisions. On ne connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants des contrats. Mais je prends l'exemple d'un mec comme Maguire, quand je vois les prestations qu'il fait chaque match, je ne comprends pas que ce mec-là puisse être titulaire et capitaine. C'est pas possible. Il doit y avoir des clauses dans son contrat. Il doit y avoir des choses qu'on ne sait pas. Mais c'est pas possible qu'un mec comme ça qui te fait perdre des points, je ne sais même pas combien de points il nous a fait perdre juste l'année dernière. Mais ce mec-là, il a même pas sa place chez le promu en première ligue. Il joue même pas titulaire. Je ne comprends pas.
Après, le problème, en fait, Jen, c'est que il y a un facteur mental à prendre en compte dans cette équipe qui est trop important dans l'analyse. C'est que, par exemple, Maguire, moi je suis pas son plus grand fan, mais Maguire, il te fait quand même une saison, il y a deux saisons, qui est plutôt bonne. Il est dans l'équipe type de l'Euro, donc c'est pas non plus le joueur qu'on veut décrire. Bien entendu, pour moi, pour Manchester United et pour gagner un titre, peut-être que c'est un peu trop léger, mais les mecs, en fait, ils ont déconnecté. C'est-à-dire, quand tu vois le match contre Brentford, la première mi-temps, mais c'est un cirque géant, c'est le cirque Pinder, et à tous les étages, en fait, dans ce club. C'est-à-dire que sur le terrain, il y a Ten Hag, depuis qu'il est arrivé, moi j'ai l'impression qu'il n'a pas pris conscience d'où il mettait les pieds et surtout du travail et du chantier qu'il avait au-delà de l'aspect foot, surtout dans l'aspect mental, le fait de devoir rallumer la lumière à certains joueurs. Tout ça c'est à prendre en compte. La même chose d'essayer de mettre la pression sur le board pour recruter et recruter de façon agressive. Quand tu vois par exemple Chelsea qui pour moi a eu beaucoup de refus sur ce mois-là de Mercato, mais ils continuent, ils essayent, même si pour moi c'est mal géré, mais ils essayent et ils vont mettre les sous. À United, on en parlait avec Julien dans les drôles de dames là sur les dernières semaines, mais ils mettent même pas l'argent. Il y a des joueurs, et même si tu te dis bon, bah ils ont surpayé, mais t'as pas d'Europe, t'es Manchester United, t'es en crise, et ben va me chercher quand même un Bellingham va mettre des sous sur des joueurs capables de te rehausser et de régénérer surtout cet effectif. Et pour le moment, il se passe rien. J'ai l'impression que tout le monde à tous les étages.
Après, ils ont un problème aussi. Ils vont avoir un problème d'attractivité aussi.
Oui, mais
aussi,
tout le monde accepte son sort, Nico. Tout le monde dans ce club-là, des joueurs, au coach, au board, tout le monde, c'est normal. J'ai l'impression qu'en fait, on peut rien faire. C'est comme ça. Et là, il se réveille le 17 août. T'as des infos, mais t'as mal à la tête. Thomas Meunier, Mim Casemiro, tu comprends rien du tout, rien. T'es sur ta TL Twitter. T'as les informations de Manchester United. C'est un cirque permanent, ce club.
On remercie James de nous avoir appelé au 32-16. Julien, on te retrouve tout à l'heure avec Gilbert, avec Daniel et avec Kevin aussi. Tu vas notamment parler du dossier de rachat possible de Manchester United. Ouais, il y a le nom de Jim Ratcliffe qui circule notamment. On va parler de Nice, nous, d'ailleurs, dans quelques instants aussi. Tu donneras les détails dans un instant.
Aussi.
De
ils vont parler d'Arsenal.
Oui, ils vont parler des Gunners.
Ça va être pas mal ça pour le. Pour
à
le
tout à l'heure, Julien, merci.
Documentaire.
À tout à l'heure.
Merci, Julien.
Tiens, je donne juste deux petites infos parallèles également, puisqu'on parlait des projets de rachat. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a Elon Musk qui a trollé Manchester United sur Twitter en faisant croire qu'il allait racheter le club et en disant non, je déconne. Ça, c'est quand même assez drôle. Le mec, il a. Et, apparemment, c'est un spécialiste du genre. Il aime bien faire des vannes sur Twitter, Elon Musk.
Et t'as vu les réponses. Il y a une réponse.
Tu peux envoyer Maguire sur Mars.
Tu peux envoyer Maguire sur Mars.
Ça, c'est très bon. Et puis également, une interview de Toto Wolff, qui est le boss de l'écurie F1 Mercedes, au Financial Times, alors qu'il explique qu'il a étudié les grands clubs et les grandes écuries pour comprendre pourquoi Mercedes n'y arrivait plus après tant d'années de règne, et il a pris le Manchester United d'Alex Ferguson en exemple, voilà, en disant j'ai étudié les grandes équipes qui sont en déclin pour essayer de comprendre mon propre déclin. C'est assez intéressant d'ailleurs comme interview, cette interview de Toto Wolff. On revient dans quelques instants pour évoquer l'OGC Nice qui demain jouera son barrage aller d'Europa Conference League face au Maccabi Tel Aviv. On sera avec Maxime Tidiette qui est à Tel Aviv, il nous fera vivre le match demain avec Timothée Mémon, supporter de Nice. On vous attend au 32-16. Est-ce que vous êtes convaincu, inquiet par le projet Ineos? On en parle dans quelques instants avec Walid Acharchour et avec Thibaut Leplat tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Walid Acharchour et de Thibaut Leplat, Maxime Tilliat sera avec nous dans quelques secondes pour évoquer l'OGC Nice qui jouera demain son barrage aller d'Europa Conference League face au Maccabi Tel Aviv. Avant cela, petit détour par Munich. Championnat d'Europe d'athlétisme, Aurélien Thiersin, une médaille française au triple saut.
Tous les soirs, on va avoir une médaille. Moi, j'étais pas habitué là depuis quelques années. Jean-Marc Ponviane, médaillé de bronze. Voilà, on le voit brandir le drapeau bleu, blanc, rouge à 27 ans. Première médaille internationale pour le Nîmois. Jean-Marc Ponviane en bronze, donc au triple saut grâce à un meilleur essai à 16 mètres 94. Et sur sa dernière tentative, il a failli doubler l'Italien Andrea Della Valle. Il est allé très loin, au-delà des 17-10. Malheureusement, il avait mordu pour 4,9 centimètres exactement. En tout cas, l'élève de Teddy Tamgo rapporte la deuxième médaille à l'équipe de France après le bronze de Jules Pommery hier. Et on le rappelle, il y a encore des espoirs ce soir avec notamment Thomas Jordier sur le 400 mètres. Et évidemment avec trois Français en finale du 110 mètres haies. Juste Kouaoumaté, Sacha Zoya et Pascal Martineau-Lagarde.
Merci beaucoup Aurélien. Il reste 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire de la première période des barrages aller de Ligue des Champions. Le Benfica mène maintenant 2-0 face au Dynamo Kiev.
C'est à 47. Mais là du coup je vais être un peu baisé avec la zone.
Attention, attention parce que là tu vas complètement l'être parce que t'es à l'antenne mon pote.
ce sont les coulisses.
Médaille d'or pour Aurélien Thiersin. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Tu passeras la compta mon pote.
Bonne soirée les gars.
Merci. Hein. Allez, adieu. Gonçalo Ramos qui a marqué le deuxième but du Benfica face au Dynamo Kiev, et l'étoile rouge Belgrade qui était menée 1-0 face au Maccabi Haïfa mène maintenant 2-1. Nice joue demain son barrage à l'aide d'Europa Conference League à Tel Aviv face au Maccabi. Maxime Tilliet est avec nous depuis Tel Aviv. Salut Maxime.
Du coup,
bonsoir à tous.
Salut Maxime. Supporter de Nice, hein, on vous attend au 32-16. Hein. Est-ce que vous êtes convaincu, séduit ou inquiet par le projet Ineos? On rappelle, hein, il reste 13 jours avant la fin du mercato. Lucien Favre en a parlé en conf de presse tout à l'heure. On va l'écouter dans quelques instants. Maxime, toi qui suis le groupe niçois, notamment avec Timothée Mémon, vous nous ferez vivre ce match demain entre le Maccabi Tel Aviv et l'OGC Nice. Est-ce que tu sentais une attente, une pression particulière avant ce barrage d'Europa Conference League?
L'attente, oui. La pression, non, pas forcément. On l'a pas vraiment ressenti avec Timothée, notamment tout à l'heure, puisque d'abord, ce sont Lucien Favre et Dante qui se sont présentés en conférence de presse, des habitués à ce genre de rendez-vous européen, à ces confrontations à élimination directe. Et puis ensuite, dans la foulée, il y avait l'entraînement. Et on a vu quand même beaucoup de sourires, pas mal de rigolades. Pour vous donner un exemple, sur des petits concours de jongle, ça faisait même participer les membres du staff, Lucien Favre en tête. Alors, de façade, tout semble aller. Mais tout de même, l'échéance de demain n'en reste pas moins très importante et un échec niçois serait très très mal vu.
On va écouter justement Lucien Favre. La question lui a été posée, est-ce qu'il s'en favorise face au Maccabi Tel Aviv? Écoutez-le, c'est assez court, hein. De toute façon il est rarement très long dans les réponses, hein, Lucien Favre.
Difficile de dire ça. Logiquement, on joue dans le championnat de France, donc on va nous taxer de favoris. Mais moi, j'ai vu les deux matchs contre Aris Salonique où Tel Aviv était meilleur qu'eux. Il y a des très très bonnes choses, il y a des très bons éléments dans cette équipe. On veut continuer, on veut atteindre les poules et on veut absolument se qualifier, quoi.
Voilà, il le dit sans le dire. Hein. On est d'accord quand même, Nice est favori demain, non?
Oui, bien sûr, bien sûr. L'attente est du côté, évidemment, du côté... niçois. La difficulté, c'est que je pense que Nice joue une partie de sa saison sur ce match-là.
Ah ouais, vraiment?
Parce que si ça se passe mal, Si jamais il se qualifie pas pour la Conference League, ça donnera un signe très négatif sur le reste de la saison. Parce que ça voudra dire, auprès d'Ineos, ça voudra dire que t'es même pas capable de te qualifier pour la Conference League après une double confrontation, sans faire un jour Maccabi Tel Aviv, c'était quand même ce qu'on disait, quand même favori au niveau des investissements, du budget, etc. Donc je pense que il y a une énorme pression en fait sur le du côté, la pression est vraiment du côté niçois et pour tout le reste de la saison. Pour moi, c'est pas loin d'être un des matchs les plus importants de la saison.
Tu bats pas cette équipe.
Alors attends, juste deux secondes.
Les deux premiers matchs notamment.
Oui, mais le problème c'est que le contexte.
Ouais. Mais justement, pour aller dans le sens de ce que tu dis, petite passe dé là de Thibaut Leplat, la question lui a été posée justement à Lucien Favre en conférence de presse, compte tenu justement du projet Ineos, des ambitions annoncées, est-ce que Favre sent la pression au moment de disputer ce match de Coupe d'Europe ?
Les objectifs, ils sont pas encore clairs. Définitif, donc je peux pas vous parler de ça, mais c'est clair que nous on veut absolument passer ce premier tour.
Voilà. Alors Maxime, il dit quand même les objectifs sont pas encore totalement clairs. Est-ce que finalement cette réponse, cette phrase, elle symbolise pas un peu le flou qui règne autour du projet d'Ineos, c'est ce qu'ils mettent en place depuis quelques temps maintenant?
Oui, bah carrément. Je pense même que Lucien Favre va réadapter, réévaluer ses objectifs en fonction même du groupe qu'il aura à la fin du mercato. C'est cette dernière quinzaine qui va un peu tout déterminer. À son arrivée, il avait annoncé tout de suite viser le podium d'ici 2 ans. Bon, dans l'immédiat, on a du mal à se projeter aussi loin avec ce groupe. C'est pas évident non plus de miser sur un Nice qui joue les premiers rôles de cette saison, comme l'évoquait Walid hier soir. Donc lui fait passer un message clair. Ces 10-15 derniers jours vont être très importants pour réévaluer les objectifs, notamment devant et dans les couloirs, ils recherchent du monde. Et donc, mais c'est sûr qu'un échec lors de ce barrage serait quand même très 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 mal vu.
Ça va un peu dans le sens de ce que tu disais hier, hein, mm-hmm. Walid. C'est-à-dire qu'on a du mal finalement à percevoir ouais. ce que vise exactement Ineos là depuis quelques temps.
Là, il y a eu en plus l'info pendant la pub sur. Les rumeurs.
Ratcliffe qui est intéressé par une participation minoritaire.
On en parlera tout à l'heure avec Julien Laurent.
On en parlera tout à l'heure, mais ça laisse planer quand même un flou autour des ambitions. Et j'en ai parlé hier longuement, mais on va voir sur cette double confrontation ce qui va se passer. Un flou dans les bureaux, un flou aussi sur le terrain.
Oui, on sent sur le terrain.
Parce que Lucien Favre l'explique en conférence de presse. J'ai l'impression qu'il est un peu en train de rétro-pédaler par rapport à ce qu'il a dit sur son intronisation. Le top 3 dans 2 ans, etc. Ouais. Là, il commence à comprendre. Les 15 jours, on va voir, parce que peut-être que sur les 15 derniers jours, ils vont être un peu plus agressifs sur le marché des transferts. Mais pour l'instant, quand on conjugue tout ça et qu'on met en perspective le début de saison, qui peut, comme le disait Thibaut, virer un début de saison très, très décevant s'il n'y a pas une qualification dans la Coupe d'Europe qu'ils doivent jouer cette saison? Attention! Attention à Nice.
On a l'impression que le projet Ineos en fait a jamais vraiment démarré.
Ouais, c'est ça. Moi je disais hier.
Depuis, mais même de l'époque Vira. On n'a pas réussi à avoir vraiment. À chaque fois, il y a le même enthousiasme, mais à chaque fois, même sur la politique de recrutement, on recrute des pépites, ouais, des promesses, mais au final, c'est des trucs qui tombent un peu à plat.
Il y a eu des belles choses, mais malheureusement, il n'y a
pas de consistance.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, effectivement, tu le dis très bien, Lucien Favre arrive et il commence à prendre le moule un peu de ce qu'est le gym maintenant. Mmh. Actuellement, sportivement, c'est ça. C'est une espèce de no man's land sportif. On ne sait pas trop exactement où on va, et le joueur qui vraiment incarne ça, à mon avis, le plus, et à la perfection, ce climat un peu étrange, c'est Gouiri. Gouiri, d'ailleurs, il en veut, parce que le dernier but qu'il prenne, c'est une paire de balles de Gouiri. Gouiri est transparent depuis 8 mois.
Après, c'est lui qui va provoquer le pénalty de Delors, quand même.
Oui, oui, bien sûr, mais il était très en colère à cause du but qui était pris contre Toulouse, et il voulait pas le dire, mais on voulait assez fort à Gouiri.
Mais tu vous dis, moi, par rapport à Lucien Favre, c'est que autant sur son premier passage, il savait que Nice n'avait pas d'argent, qu'à l'époque, 2-3 paris par-ci par-là. River, c'était sa spécialité. Balotelli, Belanda, on va faire des prêts, etc. Il savait. Là, le problème, c'est qu'il arrive, on lui dit quand même que la machine, elle est différente. Et y a rien qui vient. Et moi, je disais hier avec Roland, de façon un peu caricaturale, hein, bien entendu, mais si on m'avait dit il y a 3-4 ans que le quatrième mercato estival de Ineos, ça allait être le petit Viti d'Empoli, Ilier et Beka, avec Schmeichel qui a 35 ans, même si Schmeichel c'est un super gardien, et Ramsey qui était remplaçant aux Rangers,
Sincèrement, j'aurais pas cru une seconde. On nous avait parlé à l'époque d'agressivité, de.
Il y a un problème, c'est le fair play financier.
Ouais, pour ouais, d'accord,
je pense que leur problème,
bien juste milieu quand même. Le problème,
c'est qu'ils ont acheté un club qui a pas assez de recettes. Ils arrivent pas à suffisamment développer leurs recettes. Du coup, ils peuvent pas investir. Et du coup, ça explique aussi sans doute les envies d'ailleurs de Radcliffe d'investir dans un club où là, ils vont pouvoir mettre vraiment mettre de l'oseille, quoi.
Et moi, ce parce qui m'étonne, c'est le nombre de refus qu'ils ont eu voilà. sur le mercato.
Mais
de
parce
joueurs
que, mais qui... pas cette instabilité.
Mais normalement, Nice, Belleville, beau coach avec de l'argent, parce que je sais pas après s'ils veulent surpayer ou pas surpayer, mais à un moment donné tu vas être obligé aussi de surpayer les mecs. Je suis un peu surpris, moi. Je suis un peu surpris tout ça, de cette tournure, quoi.
Tiens, justement, Maxime, toi qui es sur place, qui est à Nice, comment les supporters, ils le vivent, ça, finalement? Parce qu'ils ont vu Ineos arriver avec beaucoup des grands effets d'annonce, ouais. avec beaucoup de promesses, etc. Il y a quoi? Il y a de la frustration aujourd'hui?
Oui, bah oui, surtout que Lucien Favre, lors de son retour, il a remis une petite pièce dans le jukebox en annonçant viser le top 3 d'ici
c'est
deux
ça,
ans.
C'est ça.
Donc évidemment, tout de suite, ça s'emballe. Derrière, ça c'est tout de suite retombé parce que bah, les recrues ont tardé à arriver. Il y a eu Huillier, puis après, ça s'est emballé un petit peu. Mais bon, au final, c'était des joueurs jeunes encore à développer qui sont voilà, comme Walid le disait avec Viti. On attend de voir encore, hein, on a pas vu chez nous. Et puis, des joueurs à relancer. Hein. Schmeichel, ok, c'est un très beau coup. Il a 35 ans. Mais à côté, la figure de proue de ce mercato, c'est aussi Ramsey qui sort de deux saisons très, très délicate. Donc il y a un certain agacement et il y a certains supporters qui sur le moment des annonces de ces recrues étaient très emballés, puis petit à petit qui se disent quand même bon, on va voir la gueule que ça aura à la fin du mercato, parce que pour le moment on est quand même pas certain de pouvoir aller retitiller certaines équipes.
Après on va patienter parce qu'on se rappelle, hein, sur le premier passage j'en parlais, mais je crois qu'ils font Belanda et Balotelli
alors justement, hein. Puisque vous parlez des éventuelles recrues, il y a pas mal de rumeurs, hein, ces derniers jours au niveau mercato à Nice. Les noms de Nicolas Pépé et Ben Brereton notamment ont été évoqués ces derniers jours. La question a été posée à Lucien Favre tout à l'heure en conférence de presse.
Bien sûr, il y a plusieurs profils. On cherche surtout devant. Mais c'est difficile de parler de profil parce que ça, c'est des noms qui sortent. C'est tous des bons joueurs. C'est difficile de parler de ce profil-là parce que moi, je ne les ai pas revus depuis un certain temps, ces joueurs. C'est difficile de donner un jugement, quoi.
Alors en revanche, il y a une piste qui semble s'éloigner, c'est Cavani. Alors c'est Riquelme qui est vice-président de Boca Junior, où Cavani a annoncé depuis de longs mois, qui a un peu vendu la mèche en disant qu'il a parlé avec Cavani, et Cavani lui a dit qu'il s'était mis d'accord avec Villarreal, où je cite, je ne sais plus quelle autre équipe, sauf qu'Unai Emery, on lui a posé la question tout à l'heure, il s'est exprimé sur Bein Sport en disant ce serait incroyable de lier le nom de Cavani à celui de Villarreal. Alors il a expliqué que c'était loin d'être fait encore une fois, mais il aimerait bien l'accueillir. En revanche, le nom maintenant qui revient du côté de Nice, c'est celui d'Islam Slimani. Voilà, qui pourrait rebondir à Nice, lui qui est indésirable,
ouais, bon, sportif, voilà, au Portugal. C'est ce que tu dis, Walid, mais de toute façon on le voit même sur les matchs, tu vois un manque de consistance, t'as une équipe qui prend beaucoup de buts sur coup de pied arrêté par exemple, t'as des problèmes de concentration, t'as des problèmes de, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque Galtier, quoi. Tout ce qu'ils auraient pu capitaliser sur Galtier par exemple, je trouve c'est qu'à l'époque c'était l'équipe qui prenait le moins de buts sur coup de pied arrêté. Là ils en ont pris deux en match amico, ils prennent un but sur une touche à Toulouse. Enfin, le match contre Toulouse, il prend une butte sur une touche. Là, tu te dis, bon, il y a quand même des choses qui ne seraient pas passées l'année dernière, tu vois. Et du coup, tu te dis, quand même, il y a des détails, l'attitude de Gouiri, la déconcentration, du flottement dans le recrutement. Et puis, tu prends des vents aussi un peu sur le mercato, parce que tu as pris quand même pas mal de vents cette saison. Donc, tout ça fait que la mayonnaise, elle commence à avoir une drôle de couleur.
Et bah tiens, il y a Osema qui nous écrit sur l'application Direct Studio. Le projet Ineos, c'est une vaste supercherie entre un propriétaire qui veut récupérer un autre club, des paris au mercato, des joueurs très jeunes recrutés et des sommes modestes investies. Rien n'indique qu'Ineos veuille vraiment que Nice joue les premiers rôles en Ligue 1.
Et qu'est-ce que tu fais, toi, si ils prennent un autre club? Parce que ils voulaient Chelsea à un moment donné. Hein.
Ouais.
Ils l'ont pas eu. Ouais. Si demain ils prennent un gros club,
type
United. Surtout, tu peux pas avoir deux mêmes propriétaires dans une même compagnie.
Et puis surtout, je suis désolé, mais tu peux devenir le. Parce que c'est quoi l'autre club? C'est Genève, non? C'est quoi le?
C'est
club
Lausanne Sport.
Tu peux devenir le Lausanne d'un autre club, en fait.
Donc, United,
en fait, ça change totalement ce qu'on pensait de ce que devait faire Ineos avec. Surtout qu'ils
ont pas. Et ils ont pas renoncé parce qu'au moment de l'offre de Radcliffe sur Chelsea, ça avait déstabilisé assez profondément le club à Nice et on pensait qu'il allait pas le refaire. Il s'était engagé vis-à-vis du gym, etc.
Garder le gym,
et là il fait une interview, il dit je veux acheter United. Ouais. Alors il veut une participation minoritaire, il veut pas être majoritaire, mais c'est quand même un en plus c'est 5 milliards.
Ouais. Tu t'achètes donc, 3 joueurs avec ça à Nice. Voilà.
Donc tu vois, je pense qu'il y a quand même il y a quelque chose de flou, ils entretiennent un flou qui fait que tu le vois sur le terrain, le flou. Il n'y a pas besoin d'être devin pour le deviner précisément.
On termine ce débat avec Hugo, supporter de Nice, qui nous a appelé au 32-16. Salut Hugo.
Salut
Hugo.
Bah et toi Hugo, alors t'es comment là face à toutes ces nouvelles ou non nouvelles d'ailleurs qui viennent du côté de Nice?
Bah moi, honnêtement tranquille. Hein, genre je m'attendais pas, vu comment les choses se sont déroulées, vu le timing dans lequel ça s'est fait, plus de directeur sportif, des pistes qui ont volé en éclats du coup puisqu'on a changé d'entraîneur tardivement, rien de préparé. Oui, je m'attendais pas à des miracles. Hein, honnêtement, pour moi là, ça va être une saison à réapprendre à jouer avec Favre et qui fasse une base, une structure solide. Elle, ça pourrait être vraiment, pour le coup, je sais qu'on en a vachement abusé de ce terme, mais elle, ça pourrait vraiment être la saison de transition. Et l'année prochaine, avec un vrai directeur sportif trouvé au cours de l'année, des pistes qui ont été négociées avant et tout, vraiment catapulter le plus haut, quoi, et vraiment que le projet ressemble à ce qui a été dit. Mais là, dans le timing où ça s'est fait, bah, je m'attendais pas à un miracle.
Mais t'as pas l'air plus inquiet que ça, Hugo.
Pas du tout. Honnêtement, bah, j'ai vraiment confiance en Rivière, quoi, qui a fait un choix fort de se séparer de Fournier, qui était quand même son acolyte depuis 12 ans, je crois. Ce qui est un choix.
Il est fragile, ouais. Rivière, maintenant.
C'est qui s'occupe de faire le recrutement maintenant?
Du centre de recrutement, la cellule de recrutement.
Ouais, non, mais c'est qui aujourd'hui cherche tout là? Parce que là, on comprend pas trop en fait.
Hein. Là, moi, je sais que là, Nice recherche un directeur sportif.
Ah, d'accord. C'est pas inquiétant.
Là, il y a une double casquette. Le directeur général fait un peu office du directeur sportif, mais là, Nice en cherche un. Mais
parce que si c'est pour avoir un directeur sportif après le mercato, quand même, non, en termes de cohérence.
Ça sera pour préparer celui de l'année prochaine, parce que là, dans le timing où ça s'est fait. Sinon, c'est vaut mieux. Moi, je préfère honnêtement qu'ils prennent leur temps et qu'ils en prennent un bon pour préparer vraiment bien réviser pour l'année prochaine. Qu'ils nous prennent un mec sur le tas pour nous faire un mercato vite fait, le plus rapidement possible.
Ah, mais ils devaient prévoir ça normalement.
Ouais, ça s'anticipe. Ouais.
Ils devaient prévoir. Tout ça. Mais Galtier, dans l'année, il pensait même pas qu'un jour son nom allait être sur la liste du PSG. Donc
c'est
pas grâce à la saison Nice.
Là, c'est pas le coach. Là, on parle de l'encadrement, on parle du bord.
Moi, je dirais que oui, si, il y a une partie. Parce que honnêtement, contre le PSG, Nice face au PSG, on n'a pas été ridicule. Et l'année dernière, on n'a pas fait une saison de merde non plus. Hein, c'est pas loin de là. Moi, je pense que voilà, il y a tout qui a été fait un peu à la va-vite. Que là, Favre, il reprend l'équipe. Il reprend l'équipe pratiquement de l'année dernière, quoi. Et qu'il va essayer de changer de manière de jouer. Donc il y a des joueurs qui vont sauter, hein, qui vont pas du tout s'adapter à sa manière de faire. Et que l'année prochaine, parce que Favre, c'est lui qui a annulé les pistes. Hein, il en a annulé beaucoup. Hein.
C'est vrai. Merci à toi Hugo d'avoir été avec nous.
Merci Hugo.
Bonne soirée. Hugo. À très vite. À très vite Hugo. Maxime, merci. On te dit à demain.
Bonne soirée.
Merci, bonne soirée. Bisous à Timothée aussi. Hein, Timothée Mémon qui nous fera vivre ce match avec toi demain entre le Maccabi Tel Aviv et l'OGC Nice, barrage aller d'Europa Conférencé qui sera vivre sur RMC. Match qu'on espère sera télévisé. Ouais. C'est mal barré pour l'instant.
Il est toujours pas.
Bah, ça essaye de négocier là. Mais
on va faire comment nous pour le décrypter demain si...
C'est une bonne question.
Oh, c'est pas un problème ça.
C'est une excellente.
Tu vas pas les mains qui vaut, toi.
Moi je les regarde.
Oui, il est là, Maxime. Tiens, deux petits résultats. C'est la mi-temps en barrage de Ligue des Champions entre le Dynamo Kiev et le Benfica. 2-0 pour le Benfica. Et l'Étoile Rouge Belgrade mène 2-1 sur la pelouse du Maccabi Haïfa. Merci Walid. Merci beaucoup Thibaut. L'After Tennis poursuit dans quelques instants. Voilà, il y a Daniel Riolo qui va faire l'été de Marseille. Vous savez qu'hier, il a fait l'été du Paris Saint-Germain. Son été du Paris Saint-Germain. Là, il va décrypter l'été d'Olympique de Marseille.
Oui, je suis déjà là.
Il est déjà là. Bonsoir Daniel.
Oui, je viens toujours un petit peu avant parce que j'écoute les amis, surtout quand il y a Walid. Ah, très important.
Sympa,
très important.
Thibaut,
en fait, ce qu'il fait, c'est que.
Il rattrape hier soir.
En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vient.
Là, il va te défoncer quand tu seras dans ta smart.
Quand je sors la smart du parking, je vais écouter et il s'occupe de mon gars. Après, je lui envoie des messages. Je dis ouais, mais je lui dis de rester aussi.
Un jour, il se passera un truc sur la route avec Walid. Voilà. Tu en prendras la responsabilité. Et Kevin Diaz sera là également, l'after qui vous attend en 32-16, supporter de l'OM notamment.
Vous êtes au paddle, Walid, ou pas? Vous avez des nouvelles?
Je sais pas du tout.
Mathieu
Baudemer dit qu'il est excellent. Ouais.
Ah oui.
Ouais.
Ah moi je sais pas. Il paraît qu'il y a un de ses coéquipiers, enfin qui joue souvent, un grand. Il veut plus jouer avec lui tellement ça avance.
Ah ça s'appelle. Ça commence par Stephen, ça finit par Brun cette histoire. Allez à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.